soir. Nous entrons maintenant dans la deuxième division de l'épître de 1 Corinthiens. La première division nous enseigne à rejeter les convoitises charnelles. Alors, commençons sur une note complètement négative. Maintenant, la deuxième division devient un peu plus positive. C'est pour cela qu'il y a un peu d'orange dans cette section. Et nous avons cinq droits légitimes, c'est-à-dire de quoi qu'il y a une place normale dans la vie d'un chrétien, mais qui doit quand même être cédé au Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Alors les convoitises charnelles sont quelque chose de repoussé qui ne doit avoir aucune place dans la vie chrétienne, mais les droits légitimes sont quelque chose de correct, mais qu'il faut présenter au Seigneur en disant « Fais ce que tu veux avec, Seigneur. Si tu veux que j'ai de la place pour cette chose dans la vie, très bien. Si tu veux pas, très bien aussi. » Alors, céder les droits légitimes. Et le premier de ces droits légitimes que le chrétien doit céder, c'est le mariage, qui est discuté dans le chapitre 7. Dans ce chapitre, Paul, qui était sans femme, justement, il présente son point de vue, mais il fait une distinction entre ce qui est son sentiment, son opinion, et ce qui est un ordre du Seigneur. Le but de ce chapitre n'est certainement pas de décourager le mariage. Bien au contraire, la Bible enseigne que le mariage doit être honoré de tous. Mais étant donné qu'il y a des avantages dans le mariage et des avantages aussi dans le célibat, et que partout ailleurs dans la Bible, nous trouvons presque uniquement les avantages du mariage. Ce n'est pas surprenant si le Saint-Esprit inspire Paul à se concentrer plus sur les avantages du célibat dans ce chapitre. Mais ce n'est pas à dire que le célibat est préférable en soi-même. Paul va dire plutôt que chacun a sa propre vocation. Donc, le but de ce chapitre n'est pas pour décourager le mariage ni pour pousser au regret ceux qui sont mariés, mais c'est pour exhorter chacun à trouver la vocation particulière que Dieu a pour lui. La première considération, alors, en cédant la question du mariage, c'est de bien peser les facteurs, une instruction donnée particulièrement à ceux qui sont encore célibataires. Et nous lirons alors les versets 1 à 9 pour voir les facteurs à peser avec la direction du Saint-Esprit. À partir du premier verset, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, les facteurs opposés indiquent qu'il y a des avantages et des désavantages dans chaque état. Dans le mariage, bien, c'est une manière d'éviter la tentation pour une chose, et c'est la volonté de Dieu pour la vaste majorité des chrétiens. Et si quelqu'un se prive du mariage par contrainte, sans que ce soit sa vocation particulière, c'est une invitation pour vraiment de graves tentations. Tous ceux qui connaissent l'Église catholique romaine sont bien au courant de ce que ça a fait que des gens garde le CDB par contrainte, parce qu'ils sont obligés par d'autres de le faire. C'est une question que chacun doit régler personnellement avec le Seigneur, s'il se marie ou non. Et pour ceux qui n'ont pas une grâce spéciale pour une vie célibataire, le mariage évite la tentation. Et si on se prive de cet appétit naturel de l'humanité, alors notre nature va s'en prendre par un autre moyen. Et c'est bien subtilement qu'elle s'en prend. Mais c'est à poser aussi que dans le mariage, il y a des responsabilités envers son conjoint et envers ses enfants. Parce qu'on ne s'appartient plus uniquement à soi-même, on s'appartient plutôt à son conjoint. On se donne l'un à l'autre dans le mariage. Et c'est un engagement qui implique des responsabilités pour la vie. Et cela est à peser. Ceux qui sont mariés dans la volonté de Dieu ne doivent pas regretter leur responsabilité, leur devoir, parce qu'ils servent Dieu en servant leur conjoint, leur famille. Mais en même temps, c'est à considérer que ça prend du temps de remplir les responsabilités de famille. Et pour cela, Dieu appelle certaines personnes à garder le célibat afin que le temps qui serait dévoué à une famille, s'ils étaient mariés, soit dévoué plutôt à ce qui concerne directement l'œuvre de Dieu. Mais il ne doit pas y avoir de regret d'un côté ou de l'autre, pourvu qu'on soit dans la vocation particulière à laquelle Dieu nous a appelés. Dans le célibat, alors, il y a une liberté pour consacrer plus de temps à ce qui est directement qui vise Dieu directement. Mais il faut que ce soit par vocation spéciale, personnelle. Et alors, ceux qui sont appelés à une vie de célibat sont tellement heureux comme ça qu'ils peuvent dire comme Paul, « Je voudrais que tous soient comme moi. » Mais quand Paul dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi », ce n'est pas à dire que Dieu préférerait que tous les hommes soient comme ça. Mais simplement, Paul, puisque c'était la volonté de Dieu pour lui, il était tellement heureux comme ça qu'il aura pu le souhaiter pour tous. Mais il reconnaît très bien quand même, d'après la fin du verset 7, que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et il est très important alors qu'on n'essaie pas de dire à un autre lequel est la volonté de Dieu pour lui. Chacun doit le trouver entre lui et le Seigneur. Et même, quelques-uns peut-être trouveront mon raisonnement un peu amusant, mais vraiment je crois que l'histoire du mouvement des assemblées aurait été différente si certains chrétiens avaient réalisé ce fait. Quand j'ai lu l'histoire de la division entre les assemblées exclusives et les assemblées ouvertes, souvent, je me suis demandé, est-ce que Darby est marié? Parce qu'il semble avoir le genre de caractère qui est souvent développé par un homme qui reste célibataire sans avoir une grâce spéciale pour cet état. Je trouve des références à la femme de Georges Muller et à sa famille qu'il avait établi un foyer vraiment exemplaire. Mais je ne trouve jamais de référence à une femme dans la vie de Darby. Puis finalement, j'ai pu trouver les informations que je recherchais et j'ai trouvé que, oui, c'est ça. Darby avait eu des plans de marier une femme de la nobilité qui ouvrait sa grande maison à des réunions d'assemblée, mais des amis de Darby l'avaient supplié de renoncer au mariage pour donner plus de temps à l'œuvre de Dieu. Et alors Darby a suivi leur conseil, mais la femme qu'il avait l'intention de marier, décédée dans peu de temps après, et l'autopsie a indiqué qu'elle était morte d'un cœur brisé. Ça fait demander alors, est-ce que c'était la volonté de Dieu que Darby renonce au mariage? Et voyant le caractère qu'il avait par la suite, qui causait souvent des divisions et des concentrations sur des points de peu d'importance, je me demande si l'histoire des assemblées aurait été différente si Darby n'avait pas gardé le célibat par contrainte. Comme par exemple, quand on entend parler de d'un groupe d'exclusifs qui se divise sur la question quand est-ce que le chrétien est scellé de l'esprit. Un groupe dit c'est quand il croit l'évangile et l'autre groupe c'est quand il se confie en Christ. Et alors imaginez que ça puisse diviser des chrétiens pour qu'ils s'excluent naturellement de leur communion. Eh bien, je cite ça pour montrer qu'il est très important que chacun trouve la volonté de Dieu pour lui-même, autrement on peut voir des répercussions qui durent longtemps. Mais il faut bien peser les facteurs quand on est jeune et quand on est face à la vie. Ensuite, il faut se soumettre à la loi divine, parce qu'il y a aussi des lois divines que Dieu nous a données dans sa parole et qui sont applicables à tous. Et nous les lirons dans les versets 10 à 16. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? For il y a des lois absolues ici que Dieu nous a données, la plus évidente étant que le mariage dure pour la vie, donc ceux qui sont mariés doivent rester avec leur conjoint. Et même si leur conjoint n'est pas converti, oui, aujourd'hui, il y en a qui voudraient enseigner que si un mariage a été fait devant la conversion, ce n'est pas valide et qu'on est libre de le défaire. Ou que si on est marié avec un inconverti, ce n'est pas valide aux yeux de Dieu. Mais d'après la parole de Dieu, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus clair. Un mariage reste valide tant que les deux personnes restent vivantes, et cela même si le mariage a été fait par désobéissance à la volonté de Dieu, ça reste quand même valide. Pour cela, il faut être vraiment certain de la volonté de Dieu, parce qu'une fois qu'on a pris cet engagement, c'est pour la vie. Et tous les regrets qu'on peut avoir ne changent pas le fait que c'est un lien qui dure pour la vie. Et aujourd'hui, dans ces jours de lâcheté, même des prétendus chrétiens recherchent toutes sortes de raisonnements pour trouver des manières de libérer un chrétien de mariage malheureux. Mais non, la parole de Dieu dit que tant que les deux personnes restent vivantes, le mariage est valable, est en vigueur. Et même d'après la manière dont je comprends la Bible, même si le couple contracte un divorce selon les lois humaines, aux yeux de Dieu, ils sont encore liés l'un à l'autre tant que les deux vivent. Alors, même dans un cas d'un joug étranger, le mariage reste valide, mais ce n'est pas une indication que c'est correct de contracter un joug étranger, parce que le verset 39 dit que le mariage doit être fait seulement dans le Seigneur. Donc, pas de remariage tant que le premier conjoint qu'on a eu reste vivant. Et alors, bien sûr, un chrétien qui est marié avec un inconverti va avoir la question, qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Et le verset 14 est donné comme assurance à une telle personne pour donner de l'espoir, disant que le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante par le mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, souvenons-nous que le mot sanctifié veut dire mettre à part. Ça ne veut pas dire que la personne inconvertie est sanctifiée dans le sens qu'un chrétien est sanctifié à cause d'être marié avec un chrétien. Mais plutôt que le fait d'être marié à un chrétien met cette personne à part. de certains qui ont de quoi dans sa vie qui sera différente à cause d'être marié avec un chrétien. Ça ne le sauve pas, mais ça va changer de quoi dans sa vie. Et les enfants aussi sont sanctifiés parce que le fait d'avoir un parent chrétien va changer de quoi dans leur vie. Et Dieu nous dit cela pour nous assurer que, oui, il y a de l'espoir que les enfants d'un mariage mixte se convertissent, et même le parent qui est chrétien devrait avoir un témoignage qui pourrait gagner les enfants au Seigneur. Donc, ne désespérons pas. Mais en même temps, oui, malgré que Dieu dit que si un chrétien a un conjoint inconverti, il doit rester avec, si c'est le conjoint inconverti qui décide de partir, dans ce cas-là, qu'est-ce que Paul veut dire en disant qu'on n'est pas lié dans ce cas-là, verset 15? Eh bien, ce n'est pas une indication que le lien du mariage est défait, comme quelques chrétiens voudraient nous dire, mais plutôt, tout simplement, que le chrétien ne doit pas se sentir sous un fardeau ou se sentir coupable en conséquence. Le chrétien ne doit pas porter le fardeau qui n'est pas en lui. C'est le fardeau du Seigneur de s'occuper du conjoint inconverti qui décide de partir. Tant que le conjoint inconverti d'un chrétien veut rester